franceinter.fr.
Bonsoir. Le compte à rebours de l'horreur ce soir en Algérie. Les ravisseurs d'Hervé Gourdel ont donné jusqu'à ce soir à la France pour arrêter ses frappes en Irak. Alger s'active toujours pour retrouver l'otage français en Kabylie. Nous ne céderons à aucun chantage, répond François Hollande depuis New York. Vous l'entendrez. Vous entendrez aussi Barack Obama. Les États-Unis et leurs alliés du Moyen-Orient ont frappé en Syrie hier soir pour la première fois. Des positions des djihadistes de l'État islamique et du Front Al-Nusra, nous serons aux Nations Unies. This is your captain speaking. Les pilotes d'Air France étaient dans la rue cet après-midi à Paris. Ils attendent que leur PDG leur dise qu'il retire son projet pour Transavia. L'adoption désormais clairement ouverte aux couples homosexuels. La PMA n'est pas un obstacle à l'adoption pour la Cour de cassation. Témoignage dans ce journal. Choisis ton camp, camarade. Gérald Darmanin mise sur Nicolas Sarkozy pour l'UMP, mais toujours sur Xavier Bertrand pour 2017. L'art contemporain n'en finit pas de se vendre aux enchères. Il passe le cap des 2 milliards de dollars de recettes en un an. Basquiat toujours en tête. Et puis le temps pour demain, des orages dans le sud, plus sec ailleurs. Prévision en fin de journal.
France Inter.
C'est la plus grande concentration de dirigeants mondiaux jamais réunis sur le dossier du climat, mais ce n'est évidemment pas le principal sujet de discussion aujourd'hui à New York. Évidemment, Barack Obama a envie de faire oublier l'échec de sa tentative d'accord sur cette question de la lutte contre le changement climatique. C'était en décembre 2009 à Copenhague. Mais le président américain et ses alliés sont surtout mobilisés sur un autre front depuis la nuit dernière, dont on va beaucoup parler à l'ONU en marge de ce sommet sur le climat, un triple front même. Les frappes sur la capitale syrienne des djihadistes de l'État islamique, Raqqa, prise pour cible pour la première fois hier soir. Celle sur les positions du front Al-Nusra, le groupe qui est affilié à Al-Qaïda et qui a été touché lui aussi hier dans deux provinces du nord-ouest de la Syrie. Et puis on va évidemment évoquer la question des otages, de l'otage français qui est bien sûr lié à cette lutte de la coalition contre les terroristes sunnites. Bonsoir Luc Lemonnier.
Bonsoir Sébastien.
Luc, vous êtes à New York avec François Hollande, qui a dit quelques mots tout à l'heure, le président français, sur Hervé Gourdel, ce Français enlevé dimanche soir en Algérie.
Ah oui, c'est le sujet qui occulte même un peu tout le reste ici au sein de la délégation française. Dès 7h, heure de New York ce matin, 13h à Paris, François Hollande a téléphoné aux parents et à la compagne d'Hervé Gourdel. Il a ensuite tenu une réunion de crise avec Laurent Fabius et s'est donc exprimé devant la presse pour témoigner de la gravité de la situation à quelques heures de la fin de l'ultimatum.
J'ai une pensée à cet instant pour lui, ainsi retenu, menacé dans sa vie, dans son existence. Je salue la dignité et le courage de sa famille. J'ai pu parler à sa compagne ce matin, également à ses parents. C'est une épreuve. Et dans cette épreuve, cette famille doit savoir qu'elle a toute la solidarité et tout le soutien de la France.
François Hollande s'est également longuement entretenu avec le Premier ministre algérien, dont l'armée ratisse la région de Tizi Ouzou à la recherche de l'otage français. Pas question de négocier ni de céder aux pressions, a souligné le président.
Aussi grave soit cette situation, nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum, fût-il le plus odieux, le plus abject. Car ce qui est en cause, c'est notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté. Aucun groupe terroriste ne pourra influencer en quoi que ce soit la position de la France, la volonté de la France, la liberté de la France. Et notre meilleure réponse à cette menace, à cette agression, c'est l'unité nationale dans cette guerre, car c'en est une, contre le terrorisme.
Voilà donc les mots du président de la République à propos d'Hervé Gourdel. Luc, je disais en commençant que c'était un sommet sur le climat, mais les chefs d'État et de gouvernement se voient et discutent évidemment en parallèle aussi et surtout, vous l'avez dit vous aussi, de la coalition contre le groupe État islamique qui a donc frappé hier pour la première fois en Syrie.
Oui, d'ailleurs, François Hollande doit rencontrer dans les heures qui viennent le président de la coalition syrienne, Hadi El-Bara, seul représentant légitime des intérêts syriens, a-t-il dit, au moment où les États-Unis et leurs alliés du Conseil de coopération du Golfe ont haussé d'un cran la chasse aux djihadistes en allant frapper leurs repères au sein même du territoire syrien. La France, est en Irak, d'autres sont maintenant en Syrie, a dit François Hollande. Mais nous combattons le même groupe, un combat qui sera long, difficile. La menace est globale, nous avons besoin de tous, a même dit François Hollande au président iranien il y a quelques minutes. Un combat pour la liberté et contre le terrorisme. Et puis j'ajoute, Sébastien, que le président a appelé tous les Français amenés à se déplacer dans des zones sensibles, à faire preuve de vigilance et à suivre les conseils, les consignes du Quai d'Orsay.
Luc Le Monnier, merci, en direct de New York. Barack Obama est donc arrivé lui aussi tout à l'heure à New York, où il doit rencontrer des responsables des 5 pays du Moyen-Orient qui ont aidé les États-Unis à frapper pour la première fois des membres de l'organisation État islamique en Syrie. Luc Le Monnier le disait, le président américain va rencontrer des responsables de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie, de Bahreïn et du Qatar, qui confirment tous ou presque ce soir avoir fait participer hier à ces frappes. Avant de décoller pour New York tout à l'heure, Barack Obama a pris brièvement la parole dans les jardins de la Maison-Blanche à Washington pour saluer la coalition engagée dans ce combat comme il s'y était engagé.
Au début du mois, j'avais expliqué au peuple américain notre stratégie pour affronter la menace que fait peser le groupe État islamique. J'avais dit clairement que dans cette campagne, les États-Unis devraient frapper des cibles à la fois en Irak et en Syrie pour que ces terroristes ne disposent pas d'un sanctuaire. Et j'avais aussi clairement précisé que les États-Unis feraient partie d'une large coalition. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes accompagnés dans ces opérations par des amis et alliés, et nous sommes fiers d'être côte à côte avec ces pays pour la défense de notre sécurité. La force de cette coalition démontre au monde entier que ce n'est pas une guerre américaine. Les peuples et les gouvernements au Moyen-Orient rejettent l'État islamique et défendent la paix et la sécurité que cette région et le monde méritent.
Barack Obama tout à l'heure avant d'arriver à New York. François Hollande, lui, a donc confirmé tout à l'heure que la France continuerait à apporter son soutien aux autorités irakiennes. On l'a entendu, le président français rejette la tentative de chantage des ravisseurs d'Hervé Gourdel. Le groupe qui a enlevé le guide de haute montagne dimanche dans le massif du Djurdjura, dans l'est de l'Algérie, menace en effet de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrête pas ses frappes sur l'Irak. 24 heures, le délai arrive donc à échéance dans la soirée. Et d'ici là, eh bien, l'armée algérienne poursuit ses recherches dans les montagnes de Kabylie pour tenter de retrouver l'otage français, Leïla Berhatto.
Près de 2000 hommes, des parachutistes, des militaires, des groupes opérationnels et des gendarmes de la région. C'est le dispositif de sécurité qui est toujours en place dans le massif des Ouassis où le randonneur français a été kidnappé. Des ratissages sont en cours et selon des sources sécuritaires, le groupe du randonneur était composé de 6 personnes, dont le guide de haute montagne français. Et ce groupe avait visiblement prévu de passer la nuit près du village de Tigda, un versant de ces montagnes du Djurdjura où il y a des chemins de randonnée très fréquentés par les habitants. C'est près du col, entre les deux versants de cette montagne, que le français a été kidnappé. Aujourd'hui, la presse algérienne considère qu'il s'agit, je cite, d'un coup médiatique car ce groupe n'était pas connu. Le leader de ce groupe djihadiste, Abdelmalek Ghouri, est un Algérien qui a fait dissidence d'Acni et qui avait fait de la prison dans les années 80. À Alger, Leïla Berhatto est reçue pour France Inter.
Et les proches d'Hervé Gourdel se sont rassemblés tout à l'heure dans le village où il habite, à Saint-Martin-de-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, pour demander sa libération. Il parle d'un homme passionné de montagne et expérimenté, qui n'en était pas à son premier voyage, comme le confirme Denis Crabière, le président du syndicat national des guides de montagne.
Il est déjà allé en Afrique du Nord. Je ne crois pas qu'il avait eu l'occasion de découvrir cette région de l'Algérie. Il n'était absolument pas porté sur la prise de risque gratuite. Ses projets étaient en général mûrement réfléchis, en tout cas à titre professionnel. Donc on n'a rien qui puisse t'en laisser penser qu'il ait fait preuve de légèreté dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Nous sommes évidemment très inquiets. Évidemment, on espère tous une issue favorable. Professionnellement, avec l'habitude qu'on peut avoir de se trouver dans des situations difficiles, on suppose qu'il est en mesure de garder son sang-froid et de faire face à la situation avec le plus grand calme possible. Malheureusement, on n'est pas à sa place pour juger de la réalité de ce qu'il peut connaître aujourd'hui. Mais on espère que toutes ses qualités sont mises à profit aujourd'hui.
Le président du syndicat des guides de montagne avec Béatrice Duguay. Pour être complet sur ce chapitre de la lutte contre le terrorisme djihadiste, on a appris aujourd'hui que 3 djihadistes étaient attendus à Paris, dont le mari de Souad Mehra, la sœur de Mohamed Mehra, l'auteur des tueries de Toulouse et de Montauban. Les 3 hommes ont été arrêtés au mois d'août en Turquie, de retour de Syrie. Et puis cela remonte encore plus loin, mais le gendre de Ben Laden a été condamné aujourd'hui à New York, condamné à la réclusion à perpétuité. L'ancien imam de 48 ans avait été le porte-parole d'Al-Qaïda. Al-Qaïda. Enfin, en ce qui concerne le sommet sur le climat, toujours à New York, c'est tout de même le sujet officiel du jour. François Hollande a confirmé tout à l'heure que la France allait alimenter le fonds vert des Nations Unies pour lutter contre le réchauffement climatique. Paris versera 1 milliard de dollars sur les prochaines années, a expliqué le chef de l'État.
Intersoir. Sébastien Paour.
Des pilotes d'avion en marinière. Les pilotes d'Air France avaient choisi le symbole du Made in France cet après-midi près de l'Assemblée nationale. Ils étaient entre 200 et 300 venus réclamer la sauvegarde de l'emploi français. La grève entrera demain dans son 10e jour, toujours à propos du projet de développement de la filiale à Bakou de la compagnie Transavia. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
La grève dure, hein, alors que le PDG d'Air France, KLM, disait encore ce matin à ce micro qu'il était prêt à retirer son projet.
Le patron s'inquiète, dit-il, du coût de cette grève. 20 millions par jour, mais ses déclarations récentes ne convainquent pas Guillaume, pilote de moyen courrier. Il manifeste pour la première fois avec sa casquette et donc marinière sur les épaules.
Ça compromet sûrement les milliards de bénéfices qu'ils comptaient faire en délocalisant nos emplois au Portugal. Je suis inquiet surtout pour l'avenir de mes enfants, parce qu'ils aimeraient bien faire le même métier. Le but de la direction qui est de faire voler les avions au départ du Portugal, ça sera sûrement pas en même condition, pas en même salaire, sans charge, sans rien.
Si Transavia Europe est écartée, les pilotes ne devraient donc plus s'inquiéter de voir leurs emplois passer sous statut étranger. Pas si simple pour Antoine Amar, porte-parole du principal syndicat, le SNPL.
Il va falloir être un tout petit peu plus précis sur les mots. Écarter, c'est stopper. Écarter, c'est suspendre. Le SNPL affirme qu'il nous faut le retrait du projet Transavia Europe. Les pilotes attendent maintenant qu'ils soient capables de le mettre dans un accord par écrit.
En attendant, cet après-midi, les marinières sont rejointes par les gilets fluo des personnels au sol, comme Philippe Cotte, délégué sud et solidaire des pilotes.
Je pense pas que c'est une grève de nantis. Les nantis à Air France, ce sont les gens qui touchent les retraites chapeaux. Mais le problème aujourd'hui, tous on est confrontés par cette politique de délocalisation de nos emplois. J'espère que l'ensemble du personnel va se saisir de cette situation pour qu'on défende notre entreprise qui est en train d'être cassée aujourd'hui.
Sans nouvelles de la direction, la grève continue. Demain, plus d'un avion Air France sur deux restera cloué au sol.
Et on reparle de cette grève à Air France après le journal dans le téléphone sonne. Vous serez aux côtés d'Hélène Jouan, Marion, ainsi qu'un représentant du SNPL, le principal syndicat de pilotes de la compagnie. LCI ne survivra pas à son choix de rester payante. La chaîne d'info de TF1 va abandonner l'info en continu et se restructurer. 58 postes vont être supprimés, 148 au total dans le groupe TF1. TF1 qui va tout de même continuer à se battre pour que LCI soit diffusée sur la TNT gratuite. Le groupe annonce qu'il va déposer un recours devant le Conseil d'État contre la décision du CSA qui a refusé en juillet son passage en gratuit. Ce n'est qu'un avis, mais il donne une idée de ce qui pourrait être la jurisprudence à venir. La Cour de cassation estime aujourd'hui que la PMA n'est pas un obstacle à l'adoption. La plus haute juridiction judiciaire considère que le recours à la procréation médicalement assistée n'empêche pas l'épouse d'une mère d'adopter son enfant. La Cour écarte notamment la notion de fraude à la loi qui est invoquée par certains tribunaux pour rejeter l'adoption par des couples de même sexe d'un enfant né à l'étranger sous PMA, qui est une pratique théoriquement interdite en France aux homosexuels. Marion est maman sociale, c'est le terme consacré, des trois enfants que sa femme a portés. Elle dépend du TGI de Versailles et elle se félicite évidemment au micro de Laetitia Saavedra de l'avis de la Cour de cassation.
Je suis vraiment très soulagée parce qu'on attendait depuis un moment cette décision de la Cour de cassation. On se demandait dans quel sens elle allait statuer. On avait laissé tomber provisoirement le dépôt des dossiers d'adoption pour que moi je puisse les adopter, car on attendait donc cette décision de la Cour de cassation à la suite du refus d'adoption par le juge du TGI de Versailles dont on dépend. Donc là, on est soulagé parce que, a priori, on peut souhaiter que le juge du tribunal de Versailles se prononcera en suivant l'arrêt de la Cour de cassation. Ça apporte quand même plus de présomption de réussir dans notre démarche. Quoi qu'il en soit, on attend donc encore un jugement en cour d'appel qui doit être prononcé fin novembre pour déposer notre dossier. Mais enfin, on a peut-être plus de chances maintenant de voir notre demande aboutir.
Tout était bien ficelé. Une lettre à ses amis sur Facebook vendredi, une interview dans le journal dimanche, la télé pendant trois quarts d'heure le soir. Tout était parfaitement réglé, sauf que ce qu'allait continuer à dire son nouveau porte-parole, le député maire UMP de Tourcoing. Je vais y arriver. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Gérald Darmanin portera donc la parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne pour la présidence de l'UMP, mais il soutient toujours Xavier Bertrand pour la présidentielle.
Oui, tout cela est assez incohérent. Gérald Darmanin vient tout juste d'accepter accepté de se mettre au service de Nicolas Sarkozy, au service de son retour en politique. Et en même temps, il donne le sentiment de se rétracter déjà quand il explique qu'il reste un fidèle de Xavier Bertrand. Alors officiellement, tout va bien. Dans l'un et l'autre des deux camps, le camp Sarko et le camp Bertrand, les choses seraient en effet tout à fait claires puisqu'un deal aurait été passé entre Gérald Darmanin et l'ancien président. Dès le départ, le jeune député maire de Tourcoing aurait averti Nicolas Sarkozy qu'il lui accordait sa préférence pour 2014 tout en continuant à afficher son soutien pour 2017 à Xavier Bertrand. Tout cela fleure bon tout de même l'opportunisme de la part de Gérald Darmanin, bien sûr, mais de la part aussi de Nicolas Sarkozy. L'ancien président est visiblement prêt à quelques compromis pour s'assurer de rassembler toutes les chapelles de sa famille politique. Parce que s'il réussit à décrocher plus de 70-80% des voix pour la présidence de l'UMP, eh bien Nicolas Sarkozy sera alors maître chez lui et il pourra imposer le style de primaire qu'il souhaitera.
Merci Karine Bécard. La condamnation de Sylvie Andrieux alourdie en appel. La députée des quartiers nord de Marseille écope de 4 ans de prison, dont un ferme, de 100 000 euros d'amende et de 5 ans d'inéligibilité. L'ex-élue socialiste était poursuivie pour détournement de fonds publics. Elle avait fait verser plus de 700 000 euros d'argent public à des associations fictives de sa circonscription pour obtenir des voix d'électeurs. C'était entre 2005 et 2008 lorsqu'elle était vice-présidente du conseil régional de PACA. Sylvie Andrieux va se pourvoir en cassation, selon son avocat. Pas mieux à droite. Patrick Balkany est désormais visé par une enquête pour corruption, en plus de celle pour blanchiment de fraude fiscale. Le député maire UMP de Levallois-Perret pourrait avoir bénéficié de commissions sur des contrats à l'international, notamment en Afrique, où il a beaucoup voyagé ces dernières années. Et puis pas mieux à l'extrême droite, le parquet de Thionville confirme qu'il a ouvert une enquête préliminaire sur les comptes de campagne du maire Front National de Hayange, en Moselle. Une enquête qui fait suite à une plainte pour abus de confiance, abus de biens sociaux et harcèlement déposée par l'ex-premier adjoint de Fabien Engelmann. Les temps ne sont pas durs pour tout le monde. Il y a un secteur qui se porte toujours aussi bien, c'est celui de l'art contemporain. Art Price, le numéro un mondial des données en la matière, a livré de nouveaux chiffres aujourd'hui. On y apprend que Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons et Christopher Wool sont toujours les stars du marché aux enchères de l'art contemporain avec 339 millions d'euros de recettes cumulées. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Dans un marché global qui a désormais dépassé les 2 milliards de dollars de recettes sur un an. Alors comment explique-t-on un tel chiffre, Isabelle ?
Alors les explications n'ont rien de surréaliste. Premièrement, dans un monde en crise, il y a beaucoup mieux que la bourse. Il vaut mieux effectivement spéculer sur un Jeff Koons, un Basquiat, un Christopher Wall, un Murakami et aussi et surtout même sur les nouveaux artistes chinois. Ensuite, il y a de plus en plus de collectionneurs milliardaires qui cherchent à investir pour la spéculation, mais aussi pour trouver une place parmi les grands du monde. Enfin, il y a de plus en plus de musées qui achètent donc des œuvres et tous ces acheteurs, sans compter les fonds de pension, font évidemment monter les prix. Bilan, en 10 ans, le marché de l'art a progressé, imaginez, de plus de 1000%. L'autre bouleversement dans ce marché, c'est la puissance de la Chine. La Chine qui prend la tête du marché mondial des ventes aux enchères et qui compte 47 artistes dans le top 100 des artistes les plus chers. Thierry Herman est le directeur d'Art Price.
La Chine, comme les USA, ont compris que le fait de mettre leurs artistes dans le monde entier, c'est une manière aussi d'affirmer une culture, un mode de pensée, un nationalisme. Et leur méthode est rigoureusement la même que les Américains qui sont partis de rien dans les années 60 hein, et qui ont créé ex nihilo le pop art américain, qui fait que ça fait d'eux la première nation en termes de marché de l'art.
Résultat, la France, pays pourtant du tableau peut-être le plus cher du monde, les joueurs de cartes de Cézanne, la France se retrouve reléguée à la 6e place du marché, derrière New York, Pékin, Londres, Shanghai et aujourd'hui même derrière la ville de Canton. Aujourd'hui Paris pèse moins de 2% du marché mondial.
Et le premier français, merci Isabelle Pasquier, dans le classement Art Price, c'est Robert Combas. Il est 134e. Imaginez que je termine ce journal en vous disant « Fais chier, je me casse ». Eh bien, c'est ce qu'a fait une journaliste d'une chaîne de télévision en Alaska. Elle a expliqué qu'elle allait se battre pour la légalisation du cannabis dans cet état des États-Unis. Et elle a quitté le studio en direct. En fait, le magasin de marijuana qui apparaissait dans un reportage diffusé juste avant était le sien. Je ne suis propriétaire d'aucun magasin et je serai là demain. Mais d'abord le temps pour demain justement.
La météo avec Orange, le réseau mobile 3G numéro 1 en France. Orange.
Orageux dans le sud, plus sec dans le nord. Joël Collado à Météo France.
De l'orage sur le midi, ce soir et la nuit prochaine sur les régions proches de la Méditerranée, le temps va tourner à l'orage. Cette menace orageuse qui a déjà touché la Corse va ce soir se propager vers le littoral de la Provence et vers les départements languedociens. Demain, ce bref épisode orageux, orages qui s'accompagneront localement de fortes averses, se décalera vers la vallée du Rhône, l'arrière-pays provençal, puis vers le Lyonnais et les Alpes. En allant vers l'est, les nuages remontant du sud ne donneront eux que quelques ondées. Et puis sur le reste du pays, demain, le temps restera calme. Entre le sud-ouest et le centre, les nuages d'altitude laisseront de temps en temps filtrer le soleil. Et à l'ouest, sur l'île de France et le nord, où le soleil sera beaucoup moins généreux qu'aujourd'hui, les nuages venus des îles britanniques, peu menaçants, ne donneront près de la Manche et de la mer du Nord que quelques gouttes, une petite averse. Quant aux températures, demain, après une nuit fraîche, fraîcheur assez remarquable demain matin à l'est, ces températures proches demain après-midi de 18 degrés à Lille comme à Lyon, de 19 degrés à Strasbourg, de 20 degrés à Paris ou à Rennes, atteindront au mieux sur le sud 22 degrés sur le sud-ouest et 25 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.